Bonjour Roger Daché, voilà, nous sommes au Salon maçonnique du Livre de Paris, et nous sommes donc le dimanche deuxième jour, ce salon se déroule bien, alors que certains avaient prévu que ce salon ne se déroulerait pas, vu les différentes polémiques en France sur ce qu'on appelle la recomposition du paysage maçonnique français et l'apparition aussi de nouvelles obédiences. À cela, on ajoute la sortie de votre livre, qualifié parfois de pamphlet, de brûlot, que sais-je, « Les promesses de l'aube ». Alors, comment en est-on arrivé à ce salon apaisé ?
Je crois qu'on est arrivé à l'apaisement, tout simplement, parce que c'est un événement qui s'est installé dans les habitudes maçonniques françaises. On est à la 11e édition, le 10e anniversaire l'année dernière avait été extrêmement fréquenté, très célébré, et cette année, il y a toute une organisation, un salon maçonnique du livre, et Jiri Pragman le sait très bien, ça ne s'improvise pas, ça se prépare des mois à l'avance. Donc l'équipe d'organisation, le comité d'organisation qui travaillait sérieusement, je dirais dans la pénombre et dans le calme depuis de nombreux mois, était bien placé pour savoir que le salon avait toutes les chances de bien se dérouler. Alors, c'est vrai qu'il y a des remous dans le paysage maçonnique français. Moi, j'aurais tendance à dire que depuis 3 siècles, il y a des remous dans le paysage maçonnique français. Parfois, c'est un peu plus dense qu'à certaines périodes. En ce moment, effectivement, c'est peut-être plus agité, mais on a bien distingué ces événements institutionnels de cet événement convivial, festif, de rassemblement, et qui n'est pas seulement destiné aux maçons, mais qui est aussi destiné aux non-maçons, et vis-à-vis desquels il faut avoir un minimum de respect. Et c'est pour cette raison, je pense, que le Salon maçonnique du Livre, comme on a pu le voir hier, cette 11e édition se déroule non seulement dans le calme, mais avec une fréquentation importante, puisque à 16h, hier, nous avions compté plus de 2000 personnes.
Alors, sur la forme même du salon, de l'extérieur, on est parfois un peu surpris de la place des obédiences. Donc, je ne parle pas des stands qui leur sont donnés, mais de la place des grands maîtres, notamment, qui, au fond, sont parfois très éloignés du livre maçonnique. Ce ne sont pas des auteurs. Donc, est-ce que, au fond, les obédiences sous cette forme-là, avec ces grands maîtres qui interviennent escalité, est-ce que ça a toujours sa place dans un salon de ce type-ci ?
En fait, chaque pays, sur le plan maçonnique, a sa problématique particulière. Ce que l'on doit dire, c'est que la France, de ce point de vue-là, a deux caractéristiques. C'est qu'elle a probablement le record mondial du nombre d'obédiences et que les obédiences, les appareils obédientiels, y pèsent d'un poids important. Ce qui veut dire qu'un événement de cette nature, en particulier quant à son financement, peut difficilement se passer du concours des obédiences. L'Institut maçonnique de France a été créé il y a 10 ans pour tenter de mettre une distance entre les événements et les obédiences, mais pas pour écarter les obédiences des événements. Le salon, son organisation, ses thématiques, ses tables rondes, tout est sous le contrôle de l'Institut maçonnique de France, qui est indépendant des obédiences, mais qui est un partenaire loyal de ces obédiences, qui dialogue avec elles. Et la formule d'équilibre que nous avons trouvée, c'est un salon maçonnique du livre classique avec des ateliers débats autour de livres et naturellement la présentation des auteurs et des éditeurs. Et puis, la présence de quelques grandes obédiences par le biais de grandes conférences. Cet équilibre-là, il s'est constitué au fil des années. Aujourd'hui, il est assez stable. Et finalement, c'est une formule qui séduit à peu près tout le monde, qui satisfait à peu près tout le monde. On peut le voir, d'ailleurs, par l'assistance assez nombreuse des conférences présentées par les grands maîtres.
Alors, justement, ces grands maîtres étaient présents aussi hier pour la remise des prix de l'IMF. Donc, c'était palmarès qui sera publié sur le blog maçonnique et qui, effectivement, a mis en évidence des ouvrages très, très intéressants. Alors, comme je sais qu'il y a facilement des critiques, et vous-même avez signalé que vous étiez co-auteur de deux des ouvrages, mais qui sont de nature encyclopédique, où il y a toute une série de notices, est-ce que vous pouvez préciser comment travaille le jury pour qu'il n'y ait pas de suspicion.
Alors, tout au long de l'année, nous publions sur le site de l'Institut maçonnique de France, mais nous remettons aux membres du jury des notes concernant tous les ouvrages qui sont publiés tout au long de l'année et qui sont plus ou moins liés à la franc-maçonnerie. Ce jury est constitué par, en fait, les membres du comité d'organisation. Chacun de ces membres est nommé par une des obédiences co-organisatrices, plus le bureau de l'Institut maçonnique de France, qui est composé de 4 personnes. C'est ce jury qui délibère à plusieurs reprises, bien entendu en l'absence des éditeurs qui participent à certaines réunions, mais pas aux réunions de discussion sur les prix littéraires. Et il se trouve que pour ma part, je ne prends pas part à ce jury. Les statuts disposent qu'en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, mais jusqu'à ce jour, je n'en ai jamais fait usage. Et par conséquent, quand on est soi-même un auteur qui intervient dans beaucoup d'ouvrages, on essaie de ne pas tout mélanger. Pour l'anecdote, il y a de cela quelques années, le jury, c'était un geste plaisant, un geste amical, le jury avait même fait une délibération entièrement secrète, au cours de laquelle il m'avait décerné un prix spécial pour un de mes ouvrages, et je n'étais évidemment pas au courant, et je l'avais découvert au moment de la remise des prix. Lorsque j'ai dit que tous les prix avaient été remis, quelqu'un s'est levé pour dire « mais non, il y a un autre prix, un prix spécial dont le président de l'Institut maçonnique de France n'est pas du tout informé ». Voilà. Alors c'était évidemment une plaisanterie, mais c'était aussi un geste amical, fraternel. C'est dans cet esprit-là que se passe la remise des prix de l'Institut maçonnique de France.
Alors, les promesses de l'aube n'a pas reçu de prix, tout au moins cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler de la sortie de cet ouvrage avec ces fameuses bonnes feuilles qui avaient été publiées dans l'Express, des tas de réactions sur les blogs, mais surtout sur les réseaux sociaux, y compris de personnes qui n'avaient pas lu ni le livre, ni même les articles qui les évoquaient. Donc, comment avez-vous vécu tout cela? Je crois que vous avez dû réagir à certains moments. Et comment cela se passe-t-il maintenant?
Évidemment, l'ouvrage n'a pas eu de prix, et s'il en avait été question, j'aurais pris l'initiative de le mettre hors concours, si j'ose dire, car son objectif n'était pas d'obtenir un prix. En réalité, je pense que sinon la polémique, du moins l'agitation médiatique qui a entouré l'apparition de l'ouvrage, est due simplement à la relative notoriété des auteurs. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le cas d'Alain Boer, il y a des gens qui ont une réaction soit très favorable, soit très défavorable au seul énoncé de son nom. Je pense que dans le monde maçonnique, de telles réactions ne devraient pas s'observer. Un des grands enseignements de la franc-maçonnerie, c'est que on juge après réflexion. C'est veut dire après avoir pris connaissance d'un dossier. Il s'agissait pas non plus d'un pamphlet. L'objectif n'était pas d'écrire un brûlot, mais simplement de dire une parole claire à propos d'une situation, la situation maçonnique française, qui est une situation très embrouillée suite à ce qu'on appelle effectivement la recomposition du paysage maçonnique français. Une situation très embrouillée parce que très souvent, on en a complètement oublié, ou même on en ignore totalement tous les fondements historiques. De nouveau, la question de la régularité, le débat autour de la régularité, de la reconnaissance maçonnique par la Grande Loge Unie d'Angleterre est posée en France, et entraîne évidemment des fractures importantes entre les obédiences. Mais encore une fois, on ne sait plus d'où vient ce débat. Donc on a voulu le rappeler et dire aussi qu'il y avait dans cette affaire-là beaucoup de non-dits, c'est-à-dire qu'on oubliait de dire certaines choses. On oubliait, par exemple, de dire que la reconnaissance maçonnique par la Grande Loge Unie d'Angleterre impose, sans aucune espèce d'échappatoire possible, la rupture définitive et sans ambiguïté avec toutes les autres obédiences maçonniques. Et c'est un principe qu'on peut accepter ou qu'on peut refuser. Ça, c'est un autre débat. Nous n'entrons d'ailleurs même pas dans ce débat, vraiment. Mais nous disons, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il n'y a pas de troisième voie. Peut-être y en aura-t-il une autre un jour. Dans un ouvrage récent dirigé par Jean-Luc Maxence, et qui d'ailleurs a eu un prix, et où on m'avait demandé d'écrire un chapitre sur les perspectives d'avenir de la franc-maçonnerie, j'ai essayé de tracer plusieurs schémas possibles, plusieurs scénarios, et l'un de ces scénarios, c'est qu'effectivement, un jour apparaisse une troisième voie. Mais pour l'instant, elle n'apparaît pas, et la maçonnerie anglo-saxonne n'a pas l'intention de la faire apparaître, et elle ne donne aucun signe. Voilà. Donc on a voulu dire, il y a des antécédents historiques au débat sur la régularité, il faut les rappeler, car on les ignore, et il y a des conditions qu'on ne rappelle pas, qu'on a l'air d'oublier, entre guillemets, et qu'il faut rappeler. Et surtout, ce que nous avons constaté, c'est qu'un projet qui était présenté comme un projet de rassemblement et d'unité, pour l'instant, n'aboutit pas, est clairement en panne. Et une de ses conséquences les plus évidentes, c'est que ce projet a semé le doute, la confusion, le malaise, entre non seulement entre les obédiences, mais au sein même de certaines obédiences.
Le fait que certains défenseurs de la Grande Loge de France, notamment, ou de la Confédération, mais plus particulièrement de la Grande Loge de France, disaient « mais nous ne parlons pas de l'Angleterre, il est question de la déclaration de base et des, seulement des cinq obédiences frontalières », comme disait Stéphanie. Est-ce que vous croyez que c'était une simple échappatoire ou un simple effet de manche ou une fusée à deux étages, je ne sais pas, mais est-ce que ça a un sens de faire une distinction entre ces cinq obédiences et l'obédience mère ?
D'abord, je pense simplement que ce commentaire procédait probablement d'une méconnaissance du dossier. Je veux l'interpréter comme ça. Je peux simplement dire deux choses. Premièrement, c'est que dans la déclaration de Bâle, il est dit en toutes lettres qu'il faut envisager la rupture sans ambiguïté de tous les liens subsistants avec les obédiences maçonniques irrégulières. Ça a le mérite d'être parfaitement clair. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour avoir été l'un des premiers négociateurs avant que l'obédience à laquelle j'appartiens se retire du dossier, pour avoir été l'un des premiers négociateurs de cette affaire, je suis un peu bien placé pour rappeler que, bien entendu, l'objectif primordial et l'intention de départ, c'était d'obtenir la reconnaissance par le groupe de Bâle pour ouvrir dans les mois qui suivaient à la reconnaissance par la Grande Loge Unie d'Angleterre et que, naturellement, les négociateurs du groupe de Bâle ont toujours travaillé sous le regard constant et en lien constant avec la Grande Loge Unie d'Angleterre. Comme l'a dit récemment le grand chancelier de la Grande Loge Unie d'Angleterre dans une déclaration publique, la Grande Loge Unie d'Angleterre n'intervient pas directement. Et d'ailleurs, la déclaration anglaise est assez curieuse parce qu'elle dit « nous n'intervenons pas directement ». Est-ce que c'est une manière de dire que l'Angleterre n'apprécie pas que d'autres pays interviennent directement dans le dossier français ? C'est une interprétation possible. Mais que le processus de Bâle ait été initié pour conduire in fine à la reconnaissance par Londres, il n'y a rigoureusement aucun doute. Qu'on abandonne ce projet en cours de route parce que, tout simplement, le processus de Bâle est bloqué, je peux bien le comprendre. Mais lorsqu'on veut en faire l'histoire, il n'y a aucun doute sur ce qu'était l'intention primordiale du processus.
Et il y a toujours une Grande Loge nationale française aussi.
Alors, il y a toujours une Grande Loge nationale française qui est reconnue par plus de 100 grandes loges régulières, au sens anglo-saxon du terme, par plus de 100 grandes loges régulières au monde, qui, récemment, il y a quelques semaines, a été de nouveau reconnue par une grande loge américaine supplémentaire et par la Grande Loge du Brésil, qui est aujourd'hui reconnue par la très grande majorité des grandes loges américaines. Et la dernière déclaration du grand chancelier de la Grande Loge Unie d'Angleterre rappelle que les frères de la Grande Loge nationale française sont des frères réguliers et que on observe avec satisfaction l'évolution de cette Grande Loge nationale française. Donc, la recomposition du paysage maçonnique français s'opérera peut-être, mais elle ne s'opérera peut-être pas depuis Paris, mais tout simplement parce qu'un jour, Londres va de nouveau accorder sa reconnaissance à une obédience française. Et vous savez très bien que depuis un siècle, c'est cette décision londonienne qui établit une frontière entre deux moitiés totalement incompatibles de la franc-maçonnerie en France.
Merci Roger Daché.